Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Salut auditeurs, auditrices de Erdiwa et de Radio Saint-Ferréol réunis. C'est l'heure de Il est une vallée, cette émission coproduite par l'association Bio-Vallée. Une émission qui, de Cré jusque dans le Haut-Diois, a comme ambition de partager des sujets d'information auprès de tous et de toutes, petits et grands, citoyens, citoyennes, qui veulent comprendre, connaître et s'engager sur ce territoire. Et c'est comme cela que l'association Bio-Vallée a orienté un peu ma curiosité pour ce qui est de notre prochain cycle radiophonique en direction de ce qu'ils appellent l'accompagnement au changement. Tiens, tiens, tiens.
Tournez la page.
Alors, il paraît que c'est émergent et je n'en savais vraiment rien de tout cela jusque-là. Et figurez-vous que j'ai rencontré une accompagnatrice au changement il y a peu. Et il paraît qu'il y en a un certain nombre sur cette vallée dite en Bio-Vallée. Et cette accompagnatrice m'a donc inspiré un petit portrait que vous allez entendre là dans un instant. Vous êtes prêts? Eh bien voilà, je vous présente Aurélie Moi, interviewée un jour de soleil, et ça aurait pu se faire dans un petit voilier accosté là-bas, dans un port breton. Accompagnatrice au changement, 21-22, agence de redirection écologique. Oh là là. Et ce jour-là, je crois que j'avais qu'une seule question, mais quel changement, pour qui, pourquoi, comment? Et j'ai eu envie d'aller y voir, d'aller y entendre, chercher. Il et elle ont d'ailleurs créé un festival qui s'appelle Inventons Demain, qui se déroule du 11 mars au 13 avril entre Cré et Oust-sur-Scie. Mais on en reparlera. Inventons Demain. Oh, la jolie idée, la jolie invitation, la jolie houle, respiration.
Je m'appelle Aurélie Moi, j'ai 29 ans, j'ai grandi en région parisienne, j'ai suivi une formation assez classique de quand ça marche bien à l'école, avec une prépa scientifique et une école d'ingénieur. Donc j'ai été formée à l'école polytechnique où j'ai suivi un parcours qui s'appelle « Sciences pour les défis de l'environnement ». Et ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai lancé ma propre activité de redirection écologique à travers une entreprise qui s'appelle 21-22, agence de redirection écologique avec un associé. Ça fait un peu plus de deux ans que j'habite dans la Drôme et à travers ces activités-là, je cherche à accompagner les organisations à prendre en considération les limites planétaires, avec tout un tas d'outils, d'activités et notamment une pratique que j'aime beaucoup qui s'appelle le travail qui relie.
Et ces accompagnateurs, accompagnatrices au changement, ils en ont tout plein des dispositifs. Comment on pourrait dire des propositions ou des techniques d'échange qui encouragent à la fois une prise de conscience et cela pour impulser, espérons-le, de nouvelles orientations pour ce qui est de l'activité humaine. Bon, je le dis comme ça à l'instant, mais c'est pas tout à fait juste. Je me dis que... Bon, on va comprendre petit à petit. En tous les cas, ils ont tout plein d'outils pour ce qui est de l'accompagnement au changement. Dans le dépliant du festival, on trouve une liste de rendez-vous comme autant d'invitations au changement. Qu'est-ce que je lis là ? La fresque du climat, travail qui relie, la pause carbone, la fresque numérique, la fresque des nouveaux récits. Oui, tout plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ça, là, par exemple ? Bon, on ira voir, on ira écouter. Mais revenons à Aurélie, moi.
Tournez la page.
Qu'est-ce qui t'a animé durant tes années d'études là-bas à Paris ?
Je crois que j'étais une bonne élève. Voilà, pas particulièrement engagée en tout cas sur les problématiques écologiques ou sociales à cette époque-là. C'est pas quelque chose qui m'a été transmis par mes parents depuis ma plus tendre enfance. J'étais plutôt voilà, pas trop me poser de questions et à suivre les rails qui avaient été tracés un peu pour moi. Mais par contre, je pense que j'avais une grande sensibilité. Un peu émotionnelle, sensibilité un peu aux grands enjeux du monde. Ça faisait depuis le début du lycée que j'avais commencé à me questionner sur le fait de manger des animaux, que j'avais commencé à adopter un régime végétarien, pas tant pour des questions écologiques, mais plus de bien-être animal à cette époque-là. Et c'est au moment de devoir choisir mon parcours d'approfondissement, quand j'étais à l'école polytechnique, je voyais la liste des parcours qui étaient proposés avec des choses sur la big data ou la physique quantique ou l'informatique ou la finance, et il n'y avait rien du tout qui me parlait là-dedans. Et à la toute fin de la liste, il y avait un parcours qui s'appelait « Sciences pour les défis de l'environnement ». Et là, je me suis dit « Ah, ça me parle ». C'était un parcours pluridisciplinaire, tout en lien avec les problématiques environnementales. Et du coup, c'est... À ce moment-là, c'était quand je pense en 2014 ou 2015, donc il y a une dizaine d'années que j'ai choisi ce parcours-là, où j'ai commencé à prendre du coup cette voie-là des questions environnementales, et où du coup, une fois que je suis rentrée dedans, ben, du coup, ça m'a paru une évidence que en fait, c'est à ça que j'avais envie de consacrer ma vie. Et du coup, en me plongeant dans les aspects un peu scientifiques, théoriques, et puis après, juste par les rencontres, le fait de côtoyer des personnes engagées plein de manières de vrai, de militer pour la prise en compte du vivant et tous les aspects de la société, que je me suis rendu compte que c'est à ça que j'avais envie de consacrer ma vie. Et puis depuis, il n'y a pas eu de retour en arrière possible. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment central dans ma vie à la fois personnelle et professionnelle.
Aurélie Moi, accompagnatrice au changement, un portrait dont on pourrait tourner les pages, illustrer, tourner la page.
Avant d'arriver dans la Drôme, j'étais installée en Bretagne, à Saint-Brieuc, où j'avais créé un village de tiny house, des micro-maisons en bois. Ce village, il s'appelle le Petit Village. Et moi, j'habitais sur un voilier, un tout petit voilier dans le port du Légué, à Saint-Brieuc. Et j'étais bien là-bas, j'ai des racines familiales bretonnes, et je suis tombée amoureuse d'un garçon qui n'avait pas envie de vivre en Bretagne et qui ne tenait pas debout dans mon bateau, qui était trop petit pour lui. Et du coup, c'est lui qui a voulu partir en vadrouille, aller explorer d'autres coins de France. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à le suivre et à m'installer ici. Au début, je pensais que la mer, la Bretagne me manquerait. Mais j'ai découvert la joie de la rivière et la proximité des montagnes. Et aujourd'hui, je me sens vraiment très très bien ici, très amoureuse de la rivière, de la Drôme. Et de temps en temps, je retourne faire un tour en Bretagne, mais sans nostalgie et avec une grande joie d'habiter ce territoire et de découvrir aussi le fourmillement d'initiatives, de projets en lien avec les problématiques écologiques et sociales, et commencer à à me mettre en lien aussi avec tout ce réseau-là et puis à faire émerger, voire émerger des opportunités, une continuité dans mon travail aussi qui est très chouette ici localement.
Respiration.
Souvent, on nous demande d'où ça vient ce nom, 21-22. C'est un peu une blague de geek de l'écologie, si on peut dire ça comme ça. Les chiffres, c'est 2-1-2-2. C'est pour 2 tonnes de CO2. C'est l'empreinte carbone à ne pas dépasser en 2050 si on veut respecter les accords de Paris, c'est-à-dire ne pas réchauffer la planète de plus de 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Ça, en termes de surface disponible par personne, ça fait 2 hectares parce qu'on n'a pas plus d'une planète. Donc voilà, ça fait 2-1-2-2. Quand on assemble tous ces chiffres, ça fait 21-22 et ça fait aussi 2122. On se demande à quoi ressemblera la Terre et ses habitantes à cette échéance-là.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
À 19h30, Laurent Fabius valide l'accord sur le climat après 13 jours de négociations. En assemblée plénière, c'est l'ovation. L'accord est historique.
Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant.
Et la mission qu'on s'est donnée, c'est de contribuer à faire en sorte que les organisations se réalignent ou s'alignent avec les limites planétaires, alignent leur modèle économique avec les limites planétaires. Et du coup, pour faire ça, ça passe par différentes étapes. On passe pas mal de temps à faire de la sensibilisation, de la formation aux enjeux écologiques en utilisant tout un tas d'outils comme la fresque du climat ou l'atelier Inventons nos vies bas carbone ou d'autres sans tous les citer. Donc on passe beaucoup de temps sur ce qu'on appelle cette phase d'éveil, s'assurer que l'ensemble de nos interlocuteurs et interlocutrices ont un niveau minimum de compréhension des enjeux, de ce dont on parle, de la hauteur de la marche quand on parle de changement climatique ou dépassement des limites planétaires au sens large. Et après, un accompagnement un peu plus dans le long terme de, une fois qu'on a passé cette phase d'éveil, on intervient auprès des organisations sous un format qu'on appelle base arrière. Donc on est là dans le temps long, en soutien comme en coaching sur l'ensemble de leurs problématiques en lien avec la transition écologique.
C'est une grande victoire pour l'humanité parce que le monde a su se rassembler aujourd'hui pour faire une promesse aux générations futures.
Donc ça peut être faire un bilan carbone si c'est nécessaire, voir ce que ça donne pour l'organisation, la trajectoire qu'on appelle science-based target, donc aligné sur la science, donc aligné avec les accords de Paris. Qu'est-ce que ça donne par exemple en termes de trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, construction d'une feuille de route, d'une stratégie, mise en place de cette stratégie, opération de projet de redirection écologique. Et donc ça, c'est une partie un peu tête, de comprendre les enjeux, définir la stratégie et mettre en place cette stratégie. Et à côté de ça, il y a aussi une dimension un peu accompagnement plus humain de la transformation. Pour ça, moi, je passe pas mal de temps et j'investis beaucoup dans mon énergie sur l'accompagnement, notamment humain, émotionnel, intérieur de la transformation. Même si on a compris le sujet et que dans notre tête, on sait qu'il faut aller vers ça, il y a besoin aussi d'une révolution, d'une transition presque intérieure. Et du coup, pour ça, moi, je passe pas mal de temps à organiser des ateliers de travail qui relient, donc à la fois pour le grand public et à la fois je pratique ça aussi dans les organisations, donc en organisant des séminaires pour travailler plus sur la dimension humaine, émotionnelle des transformations.
Un portrait dont on pourrait tourner les pages, illustré.
Suspension.
Tourner la page.
Il était romantique, notre oiseau métallique. Il faisait des promesses de former la jeunesse. Des dessinaient des nuages, annonçaient des rivages, des collages au crépuscule et villages minuscules. Préparez-vous pour l'atterrissage et n'oubliez pas la poésie dans vos bagages. Préparez-vous pour l'atterrissage et n'oubliez pas la poésie dans vos bagages.
Quelles sont les motivations de ces entreprises ou ces organisations qui font appel à vous ?
Il peut y avoir différentes motivations. Ce qu'on observe, typiquement, quelqu'un qui s'est pris une grande claque de prise de conscience des enjeux écologiques et qui a commencé à s'aligner avec ça au point de vue perso et qui est en grosse dissonance avec sa vie professionnelle, typiquement un dirigeant, une dirigeante qui fait des efforts dans sa vie perso et qui se rend compte que ses activités au travail sont complètement en contradiction totale avec tout ça et qui ont un souhait de réalignement. Donc ça, c'est des choses qu'on observe voilà, comme source de motivation, un réalignement entre les activités professionnelles et les convictions profondes par rapport à ces enjeux écologiques. Il y a aussi pas mal d'organisations qui ont de l'inquiétude effectivement par rapport au futur, avec par exemple la taxe carbone dont le prix va augmenter, les jeunes qui se désintéressent de plus en plus des entreprises dont les activités ne sont pas alignées avec les enjeux écologiques, donc qui ont peur demain de ne plus pouvoir recruter, qui ont peur de ne pas garder leurs salariés en interne parce qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont des souhaits de réalignement de sens dans leur travail. Il y a la contrainte des peurs de modèles économiques inadaptés aux conséquences du changement climatique ou à d'autres enjeux écologiques type disponibilité en ressources, enjeux de biodiversité ou autres. Donc il y a un peu tout ça de à la fois, enfin ça peut être soit la carotte soit le bâton, mais en tout cas il y a plein de sources de motivation différentes pour commencer à regarder et prendre au sérieux ces enjeux là quoi.
Il était bien pratique, héron supersonique, façon botte de cette lieu, simplifiait les adieux. On allait se revoir, rien que des faux départs.
Nous pouvons rentrer en étant fiers et confiants. Le monde a écouté les petites îles.
Comment tu l'imagines, toi, cette planète Terre en 2122 ?
Je l'imagine radicalement différente de la Terre, en tout cas la société qu'on connaît aujourd'hui. Dans les scénarios optimistes où on arrive à se réconcilier avec les limites planétaires, ça veut dire des manières d'habiter, des manières de faire société, des manières de produire, des manières de consommer beaucoup plus sobres, beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus en lien avec le vivant. Du coup, j'imagine que tout irait plus lentement, tout irait, tout serait beaucoup plus tranquille les humains dans nos manières d'habiter, dans nos manières de vivre, dans nos manières d'être, et beaucoup plus en lien avec le reste du vivant qui aura su s'adapter, résister aux transformations de type changement climatique qui sont déjà en cours aujourd'hui. Voilà.
Tournez la page.
Avec votre activité, avec votre proposition, vous venez bousculer le système en place, d'une certaine manière.
On aspire à bousculer le système en place, clairement oui, parce que le système en place, il n'est pas compatible avec les limites physiques de la Terre, donc on aspire à le bousculer, ouais. Donc après, c'est toujours le juste équilibre entre à la fois réussir à le bousculer et à la fois ne pas non plus trop le brusquer, pour rester entendable et garder la porte ouverte de ces organisations-là. Donc il y a un truc de, à la fois, on cherche à les bousculer et à la fois, on cherche aussi à aller à leur rythme pour qu'ils continuent à avancer, en fait. Ouais.
N'empêche qu'il y a tout de même un modèle qui domine et qui semble être celui qui prend toujours un peu plus de force et de place, et vous venez le contrarier. Alors est-ce que vous êtes soutenu?
En fait, je pense que dans notre approche, on ne vient pas avec des messages politiques forts, on vient avec des constats scientifiques. Qu'on essaye de faire en sorte que les gens à l'intérieur des organisations s'approprient pour qu'eux-mêmes arrivent au constat ou au positionnement plus politique de le système actuel est incompatible avec la vie sur Terre. Donc il y a aussi un truc dans la posture un peu subtil de... En fait, si nous, on vient avec des messages politiques trop forts, on risque de ne pas être du tout entendable. Donc, on vient avec une posture de « on est là pour transmettre les faits et faire en sorte que vous vous les appropriez, ces faits, ils sont robustes. On vient transmettre la crème de la crème des consensus scientifiques qui sont indiscutables. » Et en fait, quand on met ces constats scientifiques au regard, et du coup les impacts aussi de l'organisation, au regard des trajectoires qui sont nécessaires, on fait en sorte qu'ils tirent eux-mêmes les conclusions de l'incompatibilité de leur fonctionnement avec ces limites-là, et qu'ils en tirent eux-mêmes les conclusions de « il est nécessaire de se réinventer ». Ce qui me rend heureuse, c'est la quête de sens et la quête d'alignement. Et je crois que pour aller chercher l'alignement, il y a besoin de beaucoup de mouvements. Il y a besoin de changer beaucoup de choses. Et ça, c'est une grande source de joie, de bonheur pour moi à mon échelle individuelle. Et aussi contribuer à provoquer du mouvement dans le bon sens vers plus d'alignement et de prise en compte des limites planétaires chez d'autres, c'est aussi une grande source de joie pour moi.
Inventons demain. Si tu pouvais comme ça, voilà, là tu as la possibilité d'inventer le monde de demain. Quoi il ressemblerait, ce monde de demain?
Un monde où on a redéfini la valeur de réussite sociale, que ça passe plus par l'accumulation de biens matériels superflus, mais par le retour à l'essentiel, au strict nécessaire d'un point de vue matériel et du coup empreinte aussi écologique, et avec un maximum d'attention et de soins apportés aux liens entre les humains et aux liens entre les humains et le reste du vivant. Ça me paraît très chouette comme demain.
un maximum de soins apportés aux liens entre les humains. Ça me fait penser que cette nuit, j'ai rêvé que j'étais au bord d'un précipice et que j'avais une forte sensation de vertige. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis après, j'ai rêvé que j'avais un morceau de gras de viande coincé entre les dents et que j'arrivais pas à l'enlever, de l'agneau, du bœuf. Et puis je me suis réveillé en me disant que je devrais consulter, qui sait, la fresque du climat ou celle des nouveaux récits. Tiens, je vois dans le programme du festival un atelier qui s'appelle « Inventons nos vies bas carbone ». Il y a du boulot, mais c'est sûr que ça urge, comme dirait ma petite sœur. Mais revenons auprès d'Aurélie, moi, accompagnatrice au changement. Donc c'est ça, c'est prendre le temps de faire ce travail ensemble. Alors donc du coup, cet outil, le travail qui relie, comment ça, qu'est-ce qui, ça veut dire quoi et qu'est-ce qui se passe ?
C'est un processus qui a été imaginé par une femme américaine qui s'appelle Joanna Macy avec des collègues il y a plus d'une soixantaine d'années vise à relier les personnes à quoi ? Ben, relier les personnes à elles-mêmes, à leurs émotions notamment face à l'état du monde, relier les personnes entre elles, aux autres humains et les relier à plus grand que soi, au reste du vivant. Et du coup, c'est un processus qui aspire à nous reconnecter notamment à nos émotions face à l'état du monde. Donc c'est un processus en quatre étapes que je pourrais dérouler, que je pourrais expliquer juste après. Et il y a une de ces étapes, c'est accueillir notre peine pour le monde. Aujourd'hui, en particulier dans les organisations, ça a tendance à être très axé sur la tête. Nous sommes des êtres rationnels, tout passe par la tête, c'est très cartésien, c'est très rationnel. Et les émotions, elles sont laissées à la porte, et le corps est laissé à la porte aussi, par ailleurs. Et dans le travail qui relie, il y a cette dimension de accueillir nos émotions face à l'état du monde, parce que ces émotions, en fait, si quand je prends conscience du changement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité, ça suscite chez moi de la tristesse, de la peine, de la colère, du désespoir, bah, en fait, c'est normal. Ces émotions, elles ont besoin d'être accueillies, elles ont un message à nous transmettre, et ce message, c'est il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui appelle à une réaction ajustée par rapport aux enjeux. Donc il y a un enjeu fort à accueillir ces émotions-là, c'est à ça qu'aspire le travail qui relie, et ces émotions-là, elles nous montrent aussi, elles sont la preuve de notre interdépendance avec le vivant. Si moi je souffre du monde qui souffre, c'est parce que je suis un être relié. Et en fait, ça permet aussi d'ouvrir une nouvelle perspective de ma place à moi par rapport au reste du vivant, et du coup d'avoir une conscience élargie qui permet derrière d'avoir une posture, des actes, un comportement qui soit en cohérence dans cette conscience de notre interdépendance avec le vivant. Du coup, c'est un processus qui, moi, me touche beaucoup et que je partage auprès du grand public et que je partage aussi depuis peu dans le monde des organisations, parce que les organisations, finalement, c'est juste un regroupement d'individus avec la croyance que faire en sorte que les individus puissent aller vers une plus grande conscience de notre interdépendance avec le vivant permettra d'aller vers des organisations qui auront une meilleure conscience de notre interdépendance avec le vivant.
Mais alors, bon, c'est pas une question que j'ai posée directement à Aurélie, moi, mais que penserait Joanna Macy, puisqu'après 60 ans de pratique, travail qui relie, oh la belle idée, la belle invitation. Mais ce qui s'est développé depuis et à grande échelle, hein, ce sont les barrières, les frontières, les écarts, les inégalités, que sais-je encore. Oh, toujours plus d'humains n'ont pas de quoi se nourrir, de s'alimenter suffisamment. Par exemple, même ici, là, dans le Diwa. Alors le changement, pour qui, pourquoi, comment y croire, quelles sont les bonnes questions, je ne sais pas. Aurélie, moi, un portrait dont on pourrait tourner les pages, illustrer, tourner la page.
Bah pour moi, une grande source d'inspiration, c'est Joanna Macy, qui a été à l'origine du processus du travail qui relie.
The balance of my talk tonight is what is really consuming me these days.
is to be able to look straight in the face at the uncertainty of our time.
Où elle parle de l'incertitude qui en fait est le propre de la vie et en fait le demain dont je t'ai parlé tout à l'heure, dont je rêve, je sais pas s'il va advenir ou pas, c'est complètement incertain. Et parfois j'aimerais bien avoir la conviction que ben si, c'est sûr, c'est ça qui va arriver, mais en réalité je sais pas, et c'est parce que je sais pas que ça me donne la force de déployer toute ma créativité au service de faire advenir ce demain-là. C'est grâce à l'incertitude qu'on est capable de déployer nos plus grandes merveilles, notre plus grand courage, notre plus grande créativité pour essayer de faire en sorte que ça advienne.
And letting us fly with uncertainty. And comfortable with it. So, I like to make lists, and so I made a list.
L'une de ses armes est la compassion et l'autre est la sagesse, la prise de conscience de l'interdépendance radicale de tous les phénomènes. Les deux sont nécessaires. La compassion vous donne le carburant, la force motrice nécessaire pour aller là où vous devez aller et faire ce que vous devez faire. Cela signifie en substance ne pas avoir peur de la souffrance du monde. Quand vous n'avez pas peur de la souffrance du monde, rien ne peut vous arrêter. Mais cette arme en elle-même ne suffit pas, car elle peut vous consumer. Vous avez donc besoin de l'autre, la reconnaissance de notre inter-être. Donc ce texte s'appelle la prophétie de Shambhala et on la retrouve dans le livre Éco-psychologie pratique et rituel pour la Terre de Joanna Macy.
Il y a quelques heures, nous avons réussi. Tous ensemble, nous nous sommes réunis autour d'un accord fort dont le monde a besoin.
195 nations se sont levées pour célébrer cette victoire. Dans la salle du Bourget, l'accord de Paris pour le climat est adopté.
À Paris, il y a eu bien des révolutions depuis des siècles. Mais aujourd'hui...
Révolution, des révolutions. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, auditeurs, auditrices de RDIWA et Radio Saint-Ferréol réunis. La semaine prochaine, nous ferons connaissance avec Claire-Émilie Lecoq et prendrons ainsi le temps d'approcher un peu plus ce festival Inventons Demain. Il a lieu du 11 mars au 13 avril 2024 à Cré et Oust-sur-Scie, un festival d'ateliers écologiques et sociaux. Pour l'heure, Il est une vallée, c'est terminé. Une série coproduite et financée par l'association Bio-Vallée. Un grand merci à Aurélie Moi de nous avoir confié sa voix. Une réalisation Vincent pour Radio Diwa et Radio Saint-Ferréol. À la semaine prochaine. Salut.